Bienvenue dans À tes amours, le podcast qui propose une autre manière d'aborder les relations. Nous sommes Adèle,
Alexia
et Sacha.
Et nous allons vous parler notamment d'émotions, de communication, de polyamour et d'autres formes de non-monogamie. Ce podcast s'adresse à toute personne s'interrogeant sur les relations.
Récemment, ma vie a été plus difficile que d'habitude. J'ai eu des choses pas marrantes à gérer et au bout d'un moment, ça m'a affectée. Et je me suis vue entrer dans des cercles vicieux de mal-être. J'étais fatiguée, alors moins efficace, alors mon estime de moi baissait, j'étais aigrie, alors je m'isolais socialement, etc. En gros, ça n'allait pas. Mes proches apprennent très vite que quand je vais mal, c'est difficile de m'aider. Et cette fois, je me suis demandé, pourquoi ? Pourquoi je suis si difficile à aider ? Est-ce que je refuse l'aide ? Est-ce que je pense que c'est inutile ? Est-ce que j'estime que je n'ai pas le droit d'être aidée ? Est-ce que, moi, je veux aider mes proches ? Et c'est ainsi que du fond de mon mal-être sont nées des dizaines de questions au sujet de l'aide. Et c'est ce qui va nous occuper dans cet épisode. Je propose qu'on cadre le sujet sur l'aide en période de crise, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que le besoin d'aide soit délimité dans le temps. Je dis période de crise pour opposer à des situations d'aidance, c'est-à-dire des contextes où l'aide n'a pas vraiment de fin. Par exemple, quand on doit aider un parent en perte d'autonomie. Alors Adèle et Sacha, pour commencer, quelle aide apportez-vous aux autres ?
Bah, généralement, l'aide qu'il m'est demandé d'apporter. Je pense que j'aide plus les gens quand ils me font une demande que ce que je vais aider proactivement. Après, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dimensions dans tout ça. Je vais pas aider pareil les gens en fonction de la nature de la relation, même si en tant que aspirant bon anarchiste relationnel, j'essaye de faire sauter un petit peu ce genre de distinction, dans le sens où je me rends compte que je vais pas accorder le même type d'aide aux gens avec qui, par exemple, je vais avoir une relation romantique et d'autres avec qui je vais avoir une relation uniquement amicale, et je me pose la question de pourquoi. On en reviendra plus tard, je pense, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce sujet. Mais voilà, en fonction de la nature de la relation, en fonction de la nature de l'urgence, en quelque sorte, en fonction de... Est-ce que c'est quelque chose de grave et qui nécessite vraiment, ou est-ce que c'est de l'aide de confort, en quelque sorte Est-ce que c'est une relation où il y a déjà de l'aide qui est présente dans cette relation, dans les deux sens, ou même dans un seul sens? En fait, est-ce qu'il y a de l'habitude dedans? Voilà. Et est-ce que peut-être aussi je me sens pertinent, moi, pour apporter cette aide par rapport au fait qu'il y ait peut-être 15 autres personnes qui peuvent aussi l'apporter?
C'est marrant parce que moi, à l'inverse, j'ai l'impression d'avoir un type d'aide un petit peu typique que j'apporte aux gens et que ça dépend pas forcément de la nature de ma relation avec la personne. Je vais avoir tendance à assez facilement proposer mon aide, notamment en termes de soutien émotionnel et d'écoute. Donc là, c'est même pas forcément quand la personne le demande, mais c'est plus je vais sentir qu'il y a un mal-être ou une gêne et je vais aller proactivement voir la personne et lui demander si ça va d'abord ou comment elle se sent. Et puis ensuite, s'ensuivra une discussion où en fait, j'essaye de me rendre disponible pour la personne, lui faire un espace où elle peut justement venir me raconter ce qui la tracasse, qu'on y réfléchisse ensemble si elle le veut, ou juste que je puisse l'écouter et lui faire un câlin si elle en a envie. Et c'est des choses que je retrouve à la fois presque dans un contexte professionnel, dans un contexte amical, ou dans mes relations romantiques, ou dans ma famille.
Du coup, c'est intéressant. Il y a effectivement plein d'aspects d'aide qu'on peut apporter. Et ça me fait penser à l'épisode sur le genre qui commençait en intro avec il y a des gens qui vont te proposer une aide pour tel truc. Et là, juste quand je nous vois tous les trois, c'est vrai que moi, j'ai tendance à apporter du soutien émotionnel assez vite. Et Sacha, je sais pas si tu le fais autant ou avec la même précipitation que Adèle ou moi, mais il peut y avoir un petit peu un aspect genré là-dedans. Du coup, la question par rapport à l'introduction de l'épisode que je cite là, c'est: Sacha, est-ce que tu répares les portes des placards des gens?
Mais Cela dit, je pense effectivement que apporter son aide, c'est aussi une question d'éducation. J'ai une anecdote à ce sujet-là. Je me souviens très bien que quand j'étais enfant, il y avait une de mes tantes qui m'avait demandé « Est-ce que tu peux me rendre un service ?» Et moi, j'avais dit « Oui, direct ». Et mon petit frère, elle lui avait posé la même question et il avait répondu « Bah, ça dépend, qu'est-ce que c'est le service ?» Et sur le moment, l'analyse de ma tante, c'était « Bah, Marc, tu devrais faire comme Adèle et dire oui sans demander quel type d'aide. »
Non.
Avec le recul, je me dis qu'au contraire, ouais, pour éviter d'être sacrificiel et être sûr de à quoi on s'engage, c'était pas une mauvaise idée de demander que c'est lui qui avait raison. Ouais. Mais en tout cas, je vois que c'était vraiment marrant de voir les différences qu'on avait et qui étaient, à mon avis, aussi question de l'éducation. Moi, on m'avait appris à être douce, serviable, gentille, attentive aux autres. Mon petit frère, il était plus encouragé à aller faire sa vie, quoi. Et ça se retrouvait dans... bah, dans les réponses qu'on faisait aux demandes de nos proches.
Oh bah, y a à peu près aucun doute sur le fait qu'il y a un gros effet éducation et genre qui va se jouer là-dessus, que ça soit effectivement sur le type d'aide, est-ce qu'on va aider à réparer des portes ou est-ce qu'on va aider à réparer des émotions, que ce soit le type de réponse qu'on a, et ça on va en parler dans un épisode très prochain sur la métacommunication, où on parlera de en fait si quelqu'un vient avec un problème, les hommes vont plus souvent arriver et dire ok, tu me racontes ton problème, je vais t'aider en essayant de le résoudre, alors que les femmes, enfin je fais des grosses généralités, mais globalement c'est la tendance qu'on observe, c'est que les femmes ont plus tendance à éventuellement à essayer de consoler, pas forcément le bon terme, mais de rassurer et de s'assurer que la personne va bien, plus que résoudre le problème derrière, parce qu'en fait la personne n'était pas forcément venue pour qu'on l'aide à résoudre le problème, mais peut-être qu'on l'aide à se sentir bien avec ce problème.
Ouais. Donc après, bon, il y a plein d'autres aspects d'aide, ça peut être sur les tâches domestiques, sur des déménagements, des gardes d'enfants, ça peut être prêter de l'argent, des choses comme ça. Et l'aide sur l'administratif, à un moment j'avais pas mal de trucs pénibles administratifs à faire et Adèle, toi tu m'as proposé de l'aide sur ce volet. Sacha aussi d'ailleurs, Sacha tu m'as aidé sur un truc bien pénible que j'avais à faire et on a fait 6 heures d'administratif en tunnel. Et maintenant ma question c'est, pourquoi est-ce que vous aidez? Est-ce que vous savez si c'est quelque chose que vous aimez faire? Est-ce que vous vous sentez un peu obligée?
Je pense que c'est assez en accord avec mes valeurs d'aider les gens, déjà.
Ouais.
Je pense que l'entraide, c'est un sujet important pour moi et que ça me paraît bien qu'on puisse apporter une aide mutuelle ou dans les moments de difficulté, bah, qu'on puisse être soutenu par son entourage. Donc, ça me semble assez naturel aussi. Après, mais je pense qu'il y a aussi parfois, en fonction des type d'aide qu'on me demande, une forme d'obligation, enfin de sentiment d'obligation, ou qui aurait surtout de la culpabilité à ne pas aider. Ça peut être compliqué pour moi de faire face à la douleur ou à la détresse de l'autre sans rien pouvoir faire aussi. J'aime pas être impuissante quand, par exemple, mon partenaire est déprimé et pas bien et qui refuse de se faire accompagner, que je sens qu'il est dans la détresse, bah, je me sens pas bien, donc ça me donne envie d'aller l'aider.
Ouais. Ça, c'était une de mes questions aussi, genre, comment vous vous sentez quand vous pouvez pas aider quelqu'un? Et c'est vrai que ça peut être vraiment frustrant, quoi. Enfin, et pouvoir aider, ça donne un peu une impression d'avoir du contrôle, entre guillemets. Et je trouve ça rassurant de se dire, OK, en fait, il y a un problème et je peux contribuer à une solution et c'est hyper réconfortant de vivre ça, quoi.
Oui, à l'inverse, quand un proche, par exemple, me dit « Non, tout va bien, ça va », alors que j'ai l'impression que ça va pas, ben, moi, je vais avoir tendance à croire que je suis responsable, que j'ai fait quelque chose de mal. Et du coup, je suis pas à l'aise, donc je vais avoir tendance à vouloir encore plus proposer mon aide.
Ouais. On va préparer un petit épisode sur la culpabilité, hein, à l'occasion.
Ouais. Ouais, c'est pas le meilleur schéma, même si j'ai vachement progressé dans les dernières années là-dessus, mais...
Bien joué.
Donc parfois, c'est pour des mauvaises raisons que j'aide les gens, je pense.
C'était la réflexion que je me faisais un petit peu tout à l'heure, alors pas pour te cibler toi particulièrement, Adèle, mais sur le fait d'effectivement, une des raisons pour aider les gens éventuellement, ça peut être assez égoïste, dans le sens où Après, on fait du bien en aidant. Enfin, oui. Pas toujours d'ailleurs, mais ça dépend si on aide bien ou pas. Mais d'une raison égoïste de se dire, bah en fait, là, finalement, c'est moi qui me sens mal de voir que cette personne, je perçois que c'est pas top pour elle ou je sais pas. Et donc, du coup, j'ai besoin pour moi de faire quelque chose et du coup, je vais aider. Et en fait, j'ai pensé à ça tout à l'heure quand vous avez parlé de soutien émotionnel. Pas pour dire que tous les soutiens émotionnels, c'est comme ça, hein, mais parce que, en fait... Moi, à titre personnel, le fait d'aller voir les gens, notamment dans des groupes, et de me rendre compte qu'ils vont pas bien, etc., c'est quelque chose que notamment je fais de plus en plus ces dernières années. Mais je voyais pas du tout ça comme quelque chose comme aider les gens, en fait. C'est plus quelque chose que je vais faire un peu naturellement, parce que peut-être j'ai besoin pour me sentir bien dans un groupe qui a une genre d'harmonie de groupe, ou je sais pas exactement dans les détails là-dessus. Et donc, en fait, je vais voir les gens. Après, parfois, les gens, il y en a, ils me disent « Ah, bah c'est super, merci beaucoup d'avoir fait ça », alors qu'en fait, peut-être moi, juste à ce moment-là, je me faisais chier, j'avais envie de papoter avec cette personne, et je me dis « C'est une personne qui a l'air de pas s'amuser, et donc, du coup, c'est... » un bon moment pour venir la déranger, mais c'est pas forcément quelque chose que je vais chercher en altruisme, d'autant plus qu'il y a des gens, ça peut grave les faire chier, alors qu'ils vont déjà pas bien, qu'on vienne leur dire « Ah ben alors, ça va pas, dis-moi plus, etc. » Donc,
c'est sûr.
C'est pas quelque chose que spontanément, je leur dis « Oui, je vais aider les gens, je vais leur faire du soutien émotionnel non sollicité, en quelque sorte. » Donc, c'est pas pour vous décrédibiliser dans votre travail d'aide sur ces gens-là du tout, mais c'est la réflexion que j'ai eue à ce moment-là de me dire, bah parfois en fait, qui est-ce qu'on aide à ce moment-là, quoi ? Est-ce qu'on s'aide soi-même ou est-ce que ou est-ce qu'on aide l'autre personne en face parce que c'était pas forcément ce qu'elle avait demandé en fait ou ce qu'elle avait envie.
Bah alors, pour nous défendre, c'est une proposition, ça, on n'impose pas notre aide. On demande à la personne si elle a envie de parler, et c'est tout.
Oui, j'allais dire ça aussi, et puis j'allais dire un autre truc pour compléter ce que t'as dit. Il y a aussi, est-ce que l'aide elle est volontaire finalement, et auquel cas, bah voilà, on va vraiment la proposer, la formuler, ou est-ce que l'aide elle est involontaire ? Moi, je sais qu'on m'a plusieurs fois remerciée pour des choses où j'avais pas la sensation d'avoir particulièrement aidé. Ou alors, d'autres fois, on m'a dit, par exemple, que j'étais solaire et que ça faisait du bien de me fréquenter et que ça avait vraiment changé le mood parce que j'avais envoyé des good vibes. Et mais en fait, j'ai l'impression que j'apportais du partage, de la stimulation, tu vois, de l'énergie à la personne et qu'en fait, c'était pas volontaire de ma part. C'est juste, j'étais comme ça et la personne, elle a pris ça comme de l'aide ou en tout cas du soutien à ce moment-là. Mais du coup, voilà, je trouve ça aussi intéressant de savoir que parfois, on aide involontairement presque, malgré nous.
Ouais. Donc, toi, Adèle, la réponse à la question « Comment est-ce que tu aides les gens ?» c'est « Je les gracie de ma présence solaire. » Et ça suffit.
Exactement.
Ça me semble tout à fait valable.
Et me remercie.
Bah, merci, Adèle, d'être avec nous sur ce podcast.
De rien, de rien. Ça me fait plaisir.
Par rapport à ce qu'on a dit, j'aimerais bien vous demander comment vous proposez de l'aide, justement. Parce que vous avez à juste titre souligné que il faut pas tomber dans le truc où on impose notre aide et que c'est intéressant d'être lucide sur nos raisons. Et c'est peut-être, je réponds moi-même à la question que j'ai posée, mais c'est peut-être un premier élément. Quand on propose de l'aide, il faut un peu savoir si on le fait pour nous ou pour l'autre et si on attend quelque chose en retour, par exemple.
Dans mon entourage, ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes qui savent directement demander de l'aide. Donc, en fait, là, j'ai même pas forcément besoin de proposer et je peux juste dire oui ou non. Si, par contre, les personnes savent pas forcément trop ou alors que moi, j'identifie qu'elles vont pas super bien, je vais assez facilement verbaliser. J'ai l'impression que tu te sens pas bien.
Ouais.
Est-ce que je peux faire quelque chose ? Ça va souvent commencer par ça. Et une question un peu ouverte pour faire état de la situation et proposer du temps de disponibilité, que ce soit pour faire une autre activité ou pour justement laisser de l'espace à la personne pour qu'elle me parle. Et si ça marche pas, je peux assez facilement dire, dans ce cas-là, est-ce que c'est OK que un peu plus tard dans la semaine, je te dépose une pâtisserie, par exemple, ou sache que je suis disponible plus tard dans la semaine à tel moment et à tel moment, si t'as besoin de passer me voir. Donc ça, c'est pour les propositions d'aide. Et il y a un autre cas qui est un peu plus à la marge, qui est que si j'identifie un service à rendre, souvent, je vais le proposer.
Et ça me semble un point carrément important, que identifier des aides qu'on peut apporter, c'est déjà une aide en fait. Identifier que ah bah je sais que t'as besoin de te rendre à tel endroit, je peux te conduire si tu veux, ou je sais que t'as pas beaucoup de temps, je peux te faire à manger ou faire des courses pour toi, ou je sais que t'as peu d'argent en ce moment, je peux te donner de l'argent ou te prêter de l'argent si tu préfères.
Je trouve ça d'autant plus important que ça peut ne pas servir sur le moment, mais comme t'as fait la proposition, le jour où la personne aura besoin de te faire une demande, elle osera peut-être la faire, alors que sans ça, ça aurait été peut-être plus compliqué. Notamment dans les questions d'argent, c'est pas forcément facile d'aller demander de l'argent à quelqu'un sans savoir sa situation financière ou autre. Et moi, je sais que j'ai pu dans le passé proposer et que ce soit refusé au moment T, mais que plus tard, ça a donné l'opportunité à la personne de se dire, si elle m'avait proposé, c'est peut-être que c'était
quelque chose qu'elle peut faire.
Une démarche qui lui paraissait accessible et du coup, je vais aller lui demander.
Moi, j'ai l'impression que quand je propose de l'aide, c'est soit que c'est parce que c'est un truc que j'ai envie de faire. Et dans ce cas-là, je propose parce que je me dis, en fait, cette activité, je veux bien la faire, par exemple. Je sais pas, il y a plein de trucs qui vont être liés au numérique. Moi, j'aime bien faire des trucs sur mon ordi, donc il y a plein de trucs éventuellement que je peux proposer là-dessus parce que j'aime bien le faire. Et donc, du coup, je le fais pour moi et pour l'autre en même temps, quoi. Donc ça, ça, je vais le faire. Et là-dessus, ça peut être un truc qui est extrêmement chronophage et ça va me prendre des dizaines et des dizaines d'heures éventuellement parce que, mais c'est parce que finalement, je fais ça un peu comme un projet pour moi, mais qui a pour prétexte d'aider quelqu'un. Ou alors, peut-être quand je me rends compte que je peux, je vais proposer de l'aide si je me rends compte que je vais pouvoir faire une grosse différence, quoi. C'est-à-dire que peut-être la personne, elle va galérer pour faire un truc et moi, pour moi, ça me coûte vraiment pas grand-chose et je me dis, ça serait vraiment bête où je pourrais le faire. Mais sinon, en fait, comme je suis très flemmard, je vais quand même assez peu proposer mon aide. Ou alors, je vais le proposer un petit peu en disant, là, j'ai l'impression que tu galères sur tel truc, peut-être je peux t'aider. Et comme dit Adèle, peut-être ça peut servir pour plus tard, etc. Mais si la personne meurt pas à l'hameçon, j'en suis fort heureux car je suis flemmard.
Comme on a un coloc qui propose de l'aide parfois, et si tu lui dis non merci ça va, il fait ah ouf j'avais aucune envie de le faire.
Quel enfer.
Et donc j'ai une autre question là sur la thématique, c'est est-ce que c'est grave de ne pas aimer aider? Parce qu'effectivement c'est quand même valorisé d'aider. On a un peu, j'imagine, envie de dire moi je suis une personne qui apporte de l'aide aux autres et tout. Et voilà, et en fait il y a parfois, on n'aime pas ou il y a des gens qui n'aiment pas. Est-ce que c'est grave?
Non. Non. Enfin, oui et non. Enfin, en fait, je vois deux trucs. Je pense que c'est pas si grave que ça et qu'il y a quand même beaucoup de jugements de valeur là-dessus qui sont peut-être liés d'ailleurs à la religion, etc. Comme quoi, aider son prochain est le truc le plus important, etc. Après, aider son prochain, c'est quand même une très bonne chose. Donc, c'est bête si tu peux pas le faire. Donc, je pense qu'il y a quand même plusieurs points sur lesquels c'est dommage de pas aimer, qui est que, déjà, tu vas quand même te retrouver à aider les gens dans ta vie. Sinon, ça va être assez problématique. Donc, si tu supportes pas le faire, ça va être chiant. Et après, là où c'est dommage, je pense, c'est que t'as cette notion de si tu aimes pas aider et si jamais du coup ça crée une culture de où l'aide est absente, eh bien tu passes à côté de quelque chose et c'est un peu dommage. Ouais. Et en fait, ça c'est un truc où je m'en suis rendu compte il y a quelques années où je me suis rendu compte que dans mon réseau amical, qui est pourtant un réseau amical qui est assez assez fort, je suis assez assez content de mes amitiés, l'aide était quand même très absente.
Ok.
Enfin, sur certains points, par exemple, un déménagement, si quelqu'un dit « je déménage », en fait, là, il y a un peu un côté obligation, quoi. Si quelqu'un déménage, t'es un peu obligé d'aller l'aider. Ouais. Bon, ok, ça, c'est le cadre, c'est comme ça que c'est décidé, t'as pas trop le choix. voilà. Mais sur d'autres trucs, à part peut-être le déménagement, il y a assez peu de cas, alors que ça va être très présent sur d'autres types d'interactions, comme peut-être les interactions familiales, où tu vas beaucoup plus volontairement aider les gens. Bon, après, ça dépend des familles, mais t'as un petit peu plus ça. Ou alors des interactions de couple, où là, si tu aides pas la personne avec qui t'es en couple, tout le monde va te jeter des cailloux et ton couple va être désolé. Mais dans les amis, je m'en tenais rendu compte parce que il y a quelques années, j'ai des amis très proches qui m'ont demandé soit à moi directement, soit à un groupe, de leur rendre des petits services qui m'auraient pris, je sais pas, une heure de mon temps, d'aller me déplacer, aller chercher un truc, le renvoyer potentiellement, ou juste le récupérer et ensuite quand on se recroise, je lui donne, etc. Et en fait, moi, ma réaction initiale, c'était non, j'ai pas envie de me déplacer pendant une heure. Et du coup, ça s'arrêtait là, quoi. C'est juste, j'ai pas envie. Et pourquoi est-ce que je le ferais? Et du coup, ma réaction s'arrêtait là, et du coup, je l'ai pas fait. Et un peu plus tard, j'étais avec une partenaire qui, elle, changeait d'appartement, et donc du coup, avait planifié une visite pour un nouvel appartement, donc un truc un peu chiant. C'est normal, parce qu'elle déménage, donc il faut bien qu'elle le fasse. Et il se trouve qu'au dernier moment, on a un truc qui se cale sur ce jour-là, on a un événement qui apparaît, et donc du coup, elle est obligée de choisir entre cet événement super ou cet appartement un peu chiant à visiter, mais bon, il faut bien le faire. Et donc, elle se dit, je vais aller à mon super événement, et le truc chiant de visite de l'appartement, je vais demander à une amie de le faire pour moi. Et cette amie l'a fait volontiers. Et je me suis dit, mais en fait...
Et toi, t'étais choquée.
J'étais pas choquée, mais en fait, je me suis dit, mais c'est bête. Enfin, pourquoi est-ce que je fais pas ça? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, du coup, ce réseau d'aide qui est là? Et après, ça devient une culture, peut-être, de l'aide ou une culture de ce truc-là. Mm-hmm. Et ça va au-delà, du coup, de est-ce qu'on aime le faire ou pas? Parce que, du coup, à partir du moment où ça devient un échange de bons procédés, où tout le monde est capable de dire, oui, il faut que je passe 3 heures de mon week-end à faire un truc pour toi, je le fais volontiers, parce que dans un mois, c'est toi qui passeras 3 heures de ton week-end à faire quelque chose pour moi.
Mais c'est marrant parce que je trouve ça à la fois hyper important, effectivement, l'entraide, et à la fois, ce que tu dis, ça m'allume un petit voyant de c'est aussi vachement important de savoir refuser et de pas justement rentrer dans un truc de sacrifice où tu vas ne pas faire le truc chouette que toi t'avais envie de faire pour aller rendre service parce que tu commences à compter les points et à te dire il y a 2 semaines on m'a rendu service et du coup il faut vraiment que je rende pareil, tu vois. Donc ça m'évoque ça, même si je suis dans le fond assez d'accord avec toi.
Et moi ça m'allume un voyant de l'autre côté qui est si tu rends service à quelqu'un, c'est un peu chaud de s'attendre à ce que la personne vraiment elle puisse faire quelque chose pour toi du même acabit ou quelque chose comme ça. Et ça me fait penser à un épisode de The Office où chaque personnage commence à faire des petits services du genre se tenir la porte, offrir, je sais pas, un gâteau, enfin des trucs vraiment petits, mais ils le font en vraiment avec l'arrière-pensée de « Ah, mais il m'en doit une parce que je l'ai tenu la porte ou j'ai fait ça et tout.
» Quel enfer!
Tout l'épisode, il tourne autour de ça, où ils font des petits trucs et tout, ils sont là genre « Maintenant, il me doit tel truc et tout. » Mais bon, c'est un truc à éviter aussi et... Les réseaux d'entraide dont tu parles, Sacha, j'imagine que c'est autour de tu aides quelqu'un qui aidera quelqu'un d'autre et en fait t'as une culture qui fait que le jour où t'auras besoin d'aide, il y aura quelqu'un pour t'aider, même si c'est une personne que toi-même t'as pas forcément aidé, mais c'est une culture quoi.
Oui, c'est ça. Et effectivement, la culture fait qu'il n'y a pas besoin de compter les points, etc. Et de temps en temps, ça vaut peut-être le coup de prendre un petit peu de recul et se dire est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est vraiment en train de se sacrifier alors que des gens prennent tout, mais chacun selon ses besoins, chacun selon ses moyens. Tu vas aider des gens, peut-être c'est d'autres gens qui vont t'aider, ils vont peut-être t'aider moins parce que toi, t'as plein d'énergie et tu peux donner. Et en fait, si tout le monde s'y retrouve et que personne ne se sacrifie, tant mieux pour tout le monde, quoi. Et c'est ça qui se passe au sein d'une famille, finalement. Enfin, une famille fonctionnelle, je suppose, tu vois, mais...
Ça n'existe pas. famille élargie, j'entends.
Mais voilà, les parents vont faire des trucs pour les enfants, et puis les enfants vont faire des trucs pour aussi un peu leurs frères et sœurs, et puis parfois aussi un peu les parents aussi, et tu comptes pas vraiment, et de temps en temps tu vérifies que, effectivement, il faut pas que ce soit les mêmes gens qui fassent tout le temps. Sachant que, on revient à ce qu'on disait au début de l'épisode, il y a un facteur genré aussi, où on apprend aux femmes à rendre service, et donc du coup, si jamais tu y prêtes pas attention, c'est les femmes qui vont se mettre à rendre service à tout le monde, et donc notamment aux hommes, et les hommes qui vont moins rendre service. Et du coup, c'est complètement inégalitaire, et là, c'est problématique. Donc, il faut quand même faire attention à ce genre de choses. Mais...
Ok, maintenant, ma question, c'est est-ce que vous acceptez l'aide des autres, que quelqu'un vous aide?
Eh bien, ça dépend.
De quoi ça dépend?
Je pense qu'il y a plein de situations maintenant où j'accepte volontiers l'aide. C'est-à-dire, je me rends compte que, soit on m'a fait une proposition et, du coup, ça a l'air acceptable pour la personne vu qu'elle me l'a proposé et donc, je dis oui.
Ouais.
Ça a été le cas, récemment pour donner un exemple. J'avais pas trop d'énergie et, voyant ça, il y a une copine qui s'est dit que elle me préparerait volontiers à dîner et, un truc un peu fancy, pour me redonner de l'enthousiasme et du moral. Et c'était vraiment pour m'éviter d'avoir à faire les courses et la cuisine. C'était pas juste on va passer un bon moment, c'était vraiment dans l'idée de m'aider. Et je le savais et j'ai accepté. Par contre, c'est plus difficile pour moi d'accepter de l'aide dans différentes situations. J'en ai 3. Est-ce que vous voulez les savoir?
Oui, je veux la liste exhaustive.
La première situation où c'est compliqué pour moi d'accepter de l'aide, c'est si je suis pas au clair sur les intentions d'aide de la part de l'autre.
Ouais.
Par exemple, si la personne qui veut m'aider, elle crush sur moi, ça va être un petit peu plus compliqué pour moi parce que j'ai l'impression soit de profiter, soit qu'elle le fait avec un intérêt qui est pas clair et ça me met hyper mal à l'aise.
Ouais, ouais, genre la peur de profiter de l'affection des autres, c'est trop un truc difficile à gérer. Je suis vraiment d'accord là-dessus.
Pourtant, on pourrait dire que si la personne elle a un crush sur toi, c'est elle qui profite de toi, parce que du coup, en t'aidant, elle profite de ta présence.
Ben, ça me gêne aussi.
Oui, Sacha, c'est pas du tout réconfortant comme option.
Du coup, une autre raison qui rend l'acceptation de l'aide difficile pour moi, c'est si ça semble too much, la proposition, et donc je suis pas à l'aise avec le fait d'accepter. Par exemple, si on me propose de l'aide financière et que le montant est exorbitant, je vais dire c'est pas du tout ok, ça va pas. Et d'ailleurs, je le vois beaucoup dans l'autre sens comme un motif de refus de mon aide, ou ce que je propose qui pour moi me semble ok, bah a l'air d'être trop pour l'autre.
Oui, ce qui est bête parfois au final, parce que ce qui semble beaucoup pour l'un n'est pas pour l'autre. Sur un montant financier, je sais que j'ai vu passer des gens qui disaient « Ah bah tiens, tu veux ça, ça coûte 10 euros, bah je te l'offre. » L'autre personne qui lui disait « Non mais t'es, ça va pas du tout, 10 euros c'est énorme, quoi, tu peux pas me lâcher 10 euros comme ça. » quoi. Alors que bah, pour la personne qui du coup reçoit 10 euros, c'est un montant énorme pour cette personne-là en question, alors que la personne qui donnait, pour elle, 10 euros c'était rien du tout.
Donc, ce que tu disais toi tout à l'heure, Sacha, où il y a des trucs où tu peux te retrouver avec des dizaines d'heures de travail. Moi, je suis là, genre, j'accepterais, enfin, j'aurais beaucoup de mal à accepter que quelqu'un fasse des dizaines d'heures de travail pour me rendre service, quoi. C'est énorme. La troisième,
la dernière situation qui rend l'aide difficile à accepter pour moi, c'est quand j'ai l'impression que le problème, il va se reproduire et que accepter l'aide, ça me donne la sensation que je vais me sentir dépendante. Pour ça, j'ai un exemple. L'autre jour, j'avais crevé à vélo et ça me mettait vraiment en PLS parce que j'en avais besoin toute la semaine, tous les jours. Et je savais que ça allait me mettre en retard. Donc, il y a quelqu'un qui m'a proposé de me changer mon pneu ou de me mettre une rustine. Et en fait, à la fois, j'avais envie d'accepter parce que bah, du coup, j'étais très contrainte par le temps et c'était très pratique. Sauf que bah, c'était la deuxième fois que ça m'arrivait de crever à vélo et que je me retrouvais dans cette situation un peu nulle. Et en fait, là, à ce stade, j'avais envie qu'on m'aide à m'autonomiser sur ce sujet-là en me montrant comment réparer, même si ça prenait plus de temps, de la disponibilité de la personne, etc. Et pour finir, c'est ce qui s'est passé. Mais du coup, je voulais pas accepter, en tout cas, qu'on me change juste mon pneu. Ça ne résolvait pas ma problématique, on va dire.
Sur le long terme, entre guillemets.
Oui.
Ça, c'est aussi le problème du mieux qui est l'ennemi du bien, qui est que parfois... mais ça va même au-delà de recevoir de l'aide aussi. C'est parfois, on se refuse de faire quelque chose parce qu'on se dit, bah non, si je fais ça, c'est la solution court terme, alors qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est la solution long terme. Sauf que la solution long terme, elle arrive pas forcément directement. Et donc, parfois, on se retrouve, on se refuse tout simplement une solution parce qu'on voudrait le mieux, alors qu'en fait, peut-être qu'il faut le bien, quoi. Et dans un cas comme ça, bon, là, t'as réussi à avoir le mieux du mieux, mais sinon, dans un cas comme ça, je me dis ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est dire, ok, j'accepte ton aide, mais en contrepartie, mais ça, c'est un deal avec toi-même, tu vois, tu te dis, en contrepartie, je me prends un créneau pour aller à un atelier réparation vélo à côté, et je vais apprendre à faire ça, et comme ça, j'ai les deux, j'ai à la fois, à la fois ça, parce que je pense que souvent, c'est un truc où on essaye de s'auto-manipuler, en gros, en se disant, je sais que j'ai la flemme d'apprendre à mettre des rustines, donc du coup, je le fais jamais. Et là, j'ai une bonne occasion, donc du coup, je vais la saisir. Mais si cette bonne occasion fait que tu passes un mois sans vélo, c'est quand même un petit peu con.
Après, là, j'ai pris un exemple très pragmatique, mais je sais que dans le passé, ça m'arrivait beaucoup de me dire, si j'accepte qu'on m'aide, par exemple, je sais pas, je me sens pas bien, on me propose de passer la soirée avec moi, bah, ça va être difficile pour moi de pas m'attendre à ce que ça se produise à chaque fois. Et bah du coup, c'est pas m'aider que de m'apporter cette aide ponctuelle parce que y a un problème sous-jacent que je vais juste ne plus voir et donc ne pas traiter d'une certaine manière. Et je vais pas apprendre à prendre soin de moi. Et ça, c'était important. Du coup, que parfois on m'aide pas et que je me retrouve confrontée à ça pour trouver des solutions. Donc voilà, il y a différentes situations. Je suis d'accord avec toi que l'idéal c'est de pouvoir prendre un peu l'aide et de planifier pour le long terme à côté, mais parfois c'est pas si facile de dissocier les deux.
Moi, j'ai un cas de refus d'aide pour allonger ta liste, Adèle, et c'est un cas qui est vraiment ultra débile. C'est que en gros, si on me propose un service en mentionnant un prétexte et que le prétexte n'est pas rempli, je refuse le service. Donc, en gros, c'est comme si tu me dis « Est-ce que tu veux que je te dépose en voiture parce que ton sac a l'air lourd ?» Et si mon sac n'est pas lourd du tout, en fait, c'est une grosse valise, mais elle est vide, par exemple, je vais dire « Non, merci, mon sac, il n'est pas lourd. » Et je vais refuser, alors que si ça se trouve, en fait, j'aurais bien aimé qu'on me dépose en voiture. Et du coup, je pourrais dire « Mon sac n'est pas lourd, mais si tu as envie de me déposer en voiture, ça m'arrange et j'accepte, tu vois.
» Ah oui, donc en fait, moi, on est précis sur notre proposition d'aide vis-à-vis de toi, plus on a de chances que t'acceptes.
J'imagine il y a une sorte de juste milieu, tu vois, mais et après, c'est à moi aussi d'apprendre à éclaircir la proposition de la personne, tu vois. Est-ce que tu veux m'aider juste parce que mon sac est lourd ou est-ce que, genre, tu veux quand même me déposer et je prends l'aide?
Une autre raison, je pense aussi, c'est un côté de responsabilisation, c'est-à-dire que si je suis responsable de ma propre misère, ma propre galère, si c'est parce que j'ai pris trop d'engagement, j'ai trop de choses à faire, il y a que... Voilà, c'est ma faute à 100%, enfin c'est jamais à 100% sa faute, mais c'est ma faute à 95%, voilà. Et ça, je pense à un temps notamment où du coup la crise était haute, qui était maintenant presque une dizaine d'années, mais où j'avais beaucoup de choses, trop de choses à faire, beaucoup trop d'engagement, etc. Et Alexia m'avait proposé de m'aider sur le côté administratif, notamment j'avais pas mal de trucs administratifs, de comptabilité à faire. Ce qui me gêne pas à faire en général, mais là juste j'en avais trop et je savais plus où donner de la tête. Et Alexia m'avait proposé de m'aider et en fait j'étais non, c'est ma galère, c'est moi qui me suis mis là-dedans. Je veux pas que quelqu'un passe du temps là-dessus alors que c'est moi-même qui me suis mis là-dedans.
Il y aurait une forme de culpabilité à accepter de l'aide à ce moment-là, tu penses? Ou c'est de la fierté?
C'est pas de la fierté, mais
je vais m'en sortir tout seul parce que c'est un frein aussi. Genre j'en profite pour lister les freins.
Ça peut l'être, mais moi je crois que j'ai pas trop ça, mais c'est plus c'est plus l'idée de dire en fait il faut que quelqu'un fasse le truc. Moi, je me suis engagé à le faire. Je vois pas pourquoi quelqu'un prendrait le truc que moi j'ai dit que je ferais. Tu vois,
c'est un sentiment de devoir, du coup.
Oui, sentiment de devoir. Et après, c'est aussi le truc de, en fait, si à cause de moi quelqu'un perd un week-end à faire, enfin, ça peut être moins qu'un week-end. Un week-end, c'est beaucoup, mais perd une journée ou une soirée à faire des trucs pour moi parce que juste je me suis mal démerdé. Ben en fait, ça veut dire que j'ai imposé, d'une certaine manière, c'est moi qui ai imposé de passer cette soirée pour l'autre, quoi.
Bah non, ça veut dire que t'as fait des erreurs, tu vois. Et c'est pas parce que t'as fait des erreurs que t'as pas le droit d'avoir de l'aide.
Oui, oui. Ben après, voilà, aujourd'hui, je vois les choses de manière différente et je serais capable d'accepter cette aide-là. Mais, mais à l'époque, c'était trop compliqué pour moi de me dire ça, alors qu'en fait, aujourd'hui, mais je pense que c'est aussi même une vision de culture d'entraide en fait tout simplement aussi bon du coup là on est au sein d'un couple et dans un couple la culture d'entraide est quand même beaucoup plus présente mais l'idée de se dire en fait je galère peu importe la raison en fait je sais que l'autre personne va être contente de perdre de son temps faire des trucs pas agréables faire des trucs comme ça. Bah oui, mais concrètement, c'est ça qui se passe. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bah,
elle va être contente plus ou moins, tu vois, elle est pas forcément contente mais c'est quelque chose qu'elle veut faire, quoi.
Oui, mais parce qu'en fait c'est à mettre en balance avec ce que ça fait à côté. C'est-à-dire que moi, je suis misérable.
Ouais.
C'est vraiment terrible parce que j'arrive plus à faire quoi que ce soit, en fait, parce que je suis submergé. Et de voir, en fait, cette aide énorme qui peut être apportée. Et en fait, de pouvoir aussi le vivre dans l'autre sens et de se rendre compte que, toi, tu peux faire des trucs qui sont pas forcément grand-chose et qui sont, n'importe quel truc. Si, je suis avec quelqu'un qui est vraiment submergé par du travail, même si c'est temporaire ou un truc comme ça, juste le fait de aller faire les courses et faire à manger, ça me prend peut-être 2 heures ou un truc comme ça. En fait, ça va pas me coûter grand-chose, en fait, de faire ça par rapport au bien que je vais faire, quoi.
Ouais. J'ai une confession à faire. Moi, ça m'est déjà arrivé d'accepter de l'aide parce que je voyais que ça faisait vraiment trop plaisir à la personne de sentir qu'elle allait m'aider. Et du coup, j'étais genre, bah, ça m'est un peu égal dans le fond. Mais en vrai, ça a l'air de lui faire tellement plaisir que ça me fait du bien quand même que la personne, elle m'aide. Et du coup, j'accepte alors que j'en avais pas vraiment besoin. Donc voilà, ça arrive aussi dans ce sens-là.
Moi, ça m'est arrivé aussi et c'est un truc qu'on mentionnait tout à l'heure. Sur le fait de se sentir mal de pas pouvoir aider quelqu'un. Ça m'est arrivé aussi de, enfin, très peu, mais genre, alors, pour tout dire, ma maman, ma maman, c'est ma maman et elle veut m'aider, en fait. Et il y a des moments où je suis désolée, maman, genre, j'ai rien à te demander, tu vois, et je me sens à deux doigts d'être coupable, tu vois, de pas avoir de trucs particuliers à lui demander. Mais bon, elle trouve des façons d'être très gentille avec moi, donc, je vais pas me plaindre.
On parlait un petit peu de ce genre de sujet dans l'épisode précédent, le 26, sur les langages de l'amour, où du coup, il y a des gens leur manière de faire ressentir qu'elles aiment quelqu'un, c'est de leur proposer de l'aide, de leur rendre des services. Et donc, du coup, peut-être que effectivement le service va pas être très utile, mais au moins, ça, les gens se sentent bien et bon, c'est pas mal.
Et après, je voulais aussi rebondir sur l'acceptation de l'aide vis-à-vis des différents types de personnes. Pour le coup, j'ai l'impression que pour moi, c'est beaucoup plus facile d'accepter de l'aide de la part de personnes que je connais très bien, à qui je fais confiance, tandis qu'une personne moins proche de moi, ça va être plus difficile. Je vais lui laisser moins la possibilité de m'aider. Je ne sais pas si ça vous fait pareil. Je sais notamment aussi que ça dépend de si je vais vraiment pas bien ou si c'est un truc léger, très ponctuel. Dans le cas d'un truc où je pressens que c'est juste un petit truc et que ça va vite passer, je peux accepter l'aide de personnes plus distantes de moi. Par contre, si c'est un mal-être qui s'installe un petit peu plus, je vais avoir besoin de me tourner vers des personnes ressources ou mes piliers de vie, comme je les appelle, parce que j'oserais pas demander ou accepter de l'aide venant de quelqu'un d'autre.
Ouais. Le manque de confiance, je vois plusieurs choses qu'il peut y avoir derrière. J'imagine qu'il peut y avoir des choses comme la peur de la dette, c'est-à-dire est-ce que la personne, elle me propose un truc pour m'aider ou est-ce qu'elle attend quelque chose en retour ou quoi. Le fait de pas savoir si la personne a vraiment envie d'aider ou pas vraiment, est-ce qu'elle est dans une logique sacrificielle, ça peut être quelque chose qu'on sait pas trop. Et en termes de confiance, il y a aussi éventuellement un truc de est-ce que la personne va me rendre le service de la façon dont je voudrais. Enfin, quand on parle d'administratif, par exemple, c'est quand même de la responsabilité, éventuellement, de remplir des papiers ou de faire des calculs ou je sais pas quoi. Et là aussi, il peut y avoir une question de confiance. C'est quelqu'un qui m'a dit, quand j'ai posé la question, quel était le frein pour accepter de l'aide. La personne m'a dit, non, mais j'ai pas envie que quelqu'un fasse mal. pas comme je voudrais, quoi. Et je fais, ouais, c'est vrai.
Oui, il faut que l'aide soit de qualité, c'est certain. Après, il y a des sujets qui sont plus propices à mal faire les choses que d'autres, mais... Moi, je pense que le type de gens, ça va... Je vais surtout me poser la question de pourquoi cette personne, en fait. Pourquoi est-ce que cette personne serait pertinente à me donner de l'aide ? Et il peut y avoir plein de raisons. Soit parce qu'on fait du coup partie d'un... On est proche et on a du coup cette culture d'aide qui est là. Dans ce cas-là, oui, j'accepte. Soit sinon, il faut quand même qu'il y ait un peu une raison. Si c'est un inconnu qui me demande de faire un truc où je me dis il n'y a pas trop de raison, soit cette personne est là au bon moment, au bon endroit, et dans ce cas-là, effectivement, si je fais tomber toutes mes affaires par terre et que la personne à côté d'elle va les ramasser, ok. Ou alors c'est une personne qui est un peu spécialiste, en quelque sorte, c'est une amie, mais qui s'y connaît bien sur le sujet, donc du coup, ok.
J'ai eu un autre frein pour accepter de l'aide par une amie qui m'a dit qu'elle voulait prouver qu'elle était capable de faire des choses. Son propos, c'est « parce que je suis une femme, on va me proposer de m'aider à faire un truc. Non, j'ai envie de porter mon sac lourd. Non, j'ai envie de réparer mon vélo. » Des choses comme ça. Ou ça pouvait être un frein aussi de se dire « c'est pas exactement comme la fierté, c'est une volonté d'indépendance. » Enfin, c'est un peu lié à ces différents trucs. J'y avais pas pensé moi-même.
Ça ressemble quand même pas mal à de la fierté.
Mais en fait, ça dépend des situations. Je pense que j'identifie plein de fois où ça pourrait être effectivement un « non, je suis indépendant ou indépendante et donc je n'accepte pas l'aide ». Et là, effectivement, ça peut être de la fierté. Mais pour certaines tâches, ça peut aussi être que les propositions d'aide, elles sont un peu en décalage avec la perception qu'on a envie d'avoir de soi sur le fait qu'on est capable. Et là, c'est un petit peu différent. C'est plutôt le regard extérieur fait que on a l'impression qu'on n'est pas capable, alors qu'on se dit qu'on pourrait l'être. Et donc, refuser l'aide, c'est une forme de se montrer à soi-même qu'on y arrive au moins ponctuellement.
Et éventuellement, t'as vraiment pas besoin d'aide pour quelque chose que tu sais très bien faire tout seul. C'est comme si j'étais en train de réparer mon ordinateur et Sacha viendrait en disant « Tu veux que je t'aide ?» Et moi, je suis non, en fait, ça va, je m'en sors, j'ai pas besoin de toi tout le temps.
Ou ça me fait penser aussi à une copine qui, à chaque fois qu'elle va en salle de sport pour boxer, un mec qui vient lui dire « Est-ce que tu veux que je te montre comment boxer ?» Et elle est là
«
Non, en fait, je suis compétente à savoir le faire. » Et donc, tu vois, là, il y aurait un motif de refus de l'aide qui est « La personne, elle a mal perçu mon besoin et en fait, je suis totalement capable de le faire moi-même. » Et du coup, c'est normal que je refuse l'aide.
Oui, mais là, on n'est pas sur le même point du coup que... Ma valise est quand même lourde, mais je vais la porter. Là, c'est juste qu'effectivement, l'aide est à la fois non sollicitée et en plus non pertinente. Mais après, ça me fait penser, j'avais vu sur Internet une femme qui se plaignait que trop souvent, quand elle était en train de se garer avec sa voiture et qu'elle faisait un créneau, il y avait un mec qui était en train de lui faire des gestes du genre « Ah, vas-y, rapproche-toi un peu », etc. Et ça la saoulait trop, elle disait « Ouais, moi, la prochaine fois que je vois un mec se garer, je vais lui faire plein de gestes, il va rien comprendre, etc. » Et moi, je me disais « Mais c'est trop... » C'est bête, tu vois, pourquoi est-ce que ça l'amène? Moi, j'adorerais qu'à chaque fois que je me gare, il y a des gens qui viennent et qui me disent et qui m'aident à faire le créneau parce que c'est chiant à faire un créneau. Mais je comprends que ça soit chiant et qu'en plus, le fait que ça soit misogyne, une forme de misogynie, ça aggrave le truc et ça soit très désagréable. Et peut-être qu'elle, c'est une pro du créneau et du coup, elle en a absolument pas besoin.
Et enfin, sur les freins à accepter de l'aide, je pense que c'est lié à des questions de fierté, mais moi, j'ai pu faire du déni sur le fait que j'avais besoin d'aide, je pense. Et c'est intéressant d'avoir ce truc-là en tête aussi. Parfois, quand quelqu'un nous propose de l'aide, est-ce qu'on peut dire non et en fait se dire si, dans l'absolu, j'aurais besoin d'aide, être capable de peut-être se remettre en question de temps en temps. Maintenant, j'aimerais vous demander, est-ce que vous savez demander de l'aide? Parce qu'il y a accepter et demander, c'est quand même un autre truc encore.
Eh ben, dans le passé, c'était hyper compliqué pour moi de demander de l'aide, mais je pense qu'il y avait plein de raisons, encore une fois. Déjà, c'était compliqué pour moi de demander de l'aide par honte et par crainte du jugement ou par peur que ça pèse sur les autres. Ça, c'était très personnel. Mais il y avait aussi la crainte que les personnes en face ne sachent pas refuser, parce que je pense que moi-même, j'avais du mal à refuser l'aide quand on m'en demandait. Et du coup, je faisais un peu un effet miroir et je me disais, je sais pas si les personnes vont oser refuser si je leur fais une demande.
Donc la peur de déranger...
Ouais, et que ça pèse vraiment sur l'autre, que l'autre se retrouve à faire du sacrifice pour moi, et j'avais pas du tout envie de ça. Donc ça, c'était une première chose. Après, il y avait un truc... tout bête qui était, je ne pensais pas forcément à demander de l'aide. Parce que quand je vais mal, j'y pense pas.
Et je trouve qu'il y a un autre truc qui est, quand on va mal et quand on se dit « Ok, j'ai besoin d'aide », c'est difficile de savoir à qui demander de l'aide aussi.
Oui.
Et moi, j'ai vraiment un truc de, quand tu vas mal, t'as l'impression d'être un peu seul. Et en fait, c'est comme si tout le monde disparaissait de ta tête, tu vois. Et genre, t'arrives pas à te souvenir que telle personne est là pour t'aider et tu le sais, en fait, tu vois. Il y a vraiment un truc comme ça.
Il y a ça et puis il y a le fait de pas forcément être au clair sur quel est le besoin derrière, donc pas forcément savoir quoi demander non plus. Et du coup, se dire, en fait, ok, je vais pas bien, mais là, je vois pas du tout ce qu'il me faut.
Là-dessus, j'ai un petit truc que j'ai pu faire récemment, quand j'allais pas bien, là, il y a un mois. Où vraiment, je me suis retrouvée à pleurer toute seule devant mon ordinateur pour aucune raison. Et je suis allée voir Sacha. J'étais en train de pleurer comme ça. Je fais « Sacha, je vais pas bien. Je fais quoi, en fait ?» Et il m'a aidée à faire le point sur quoi faire quand on va pas bien. Une petite astuce. De un, tu peux écrire le fait que ça va pas bien et essayer de suivre dans un petit journal si ça évolue en mal ou pas. L'autre truc que j'ai fait, c'était quoi ? Dire aux gens que ça va pas bien. J'ai pu le dire à mes collègues, j'ai pu le dire à mon frère et tout. Et t'es là genre juste, ça va pas en fait. Genre, et c'est pas grave, ça ira mieux, mais pour l'instant ça va pas. Et après, j'avais un truc du genre me mettre une deadline, genre si dans un mois, je suis toujours au fond du trou, bah là, je vais voir mon médecin généraliste ou chercher un psychologue ou des trucs comme ça, quoi. Voilà, parenthèse de ce truc.
Bah, sachant que moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi dans les moments où j'allais pas bien et que je voyais que j'étais en incapacité totale de demander de l'aide quand j'allais pas bien. Ouais. Et je me suis dit, bah, comment faire différemment? Et j'y ai réfléchi et avec des copines, on est en train d'élaborer des protocoles d'urgence qui s'appellent en gros « Comment m'aider quand je vais mal ?» Et du coup, c'est « Comment aider les autres à nous aider ?» en fait. Parce que voilà, il y a des moments où c'est facile de demander de l'aide. Je vais dire n'importe quoi. Je suis seule pour monter un meuble. Bah c'est mieux d'être deux. Je vais facilement pouvoir demander de l'aide à quelqu'un. Mais bah quand je vais mal, c'est beaucoup plus compliqué de l'identifier. Et du coup là, la question c'était effectivement de réussir à identifier comment ça va pas. Je sais que par exemple quand je vais pas bien, j'ai plus tendance à être pas au clair sur ce qu'il me faut et que je vais avoir tendance à répondre des peut-être, je sais pas, tout un tas de choses qui sont autant d'éléments qui peuvent aider la personne à détecter que je vais pas bien et à me faire des propositions de choix très claires, très binaires pour me dire tu préfères option A ou option B. Et là, bah, éventuellement, je vais pouvoir me prononcer, voire même dire je sais pas choisir, choisis pour moi en fait.
Ouais.
Donc voilà, l'idée de ce protocole, c'était vraiment intéressant et je trouve que ça m'a permis de me poser la question sur comment moi, je demande de l'aide et comment, quand je n'arrive pas à demander de l'aide, je peux avoir une fiche presque prête à l'emploi avec un petit logigramme de quoi faire en fonction de mes réponses. Parce que
la
ça,
fiche,
je
elle
le
doit
sais
être,
à l'avance.
Elle doit être dans une petite enveloppe que tu mets dans une boîte où il y a écrit « En cas d'urgence, briser la glace
».
Et tu casses et tu récupères l'enveloppe et après, tu fais les trucs dedans.
Ouais.
On dirait une escape game. L'escape game de quand tu vas pas bien. Et donc, il y a quoi, du coup? Enfin, est-ce que tu as quelques exemples que tu peux nous donner pour illustrer?
Ben, oui, en fait, typiquement, j'ai identifié déjà des moments où je sais à l'avance que ça va être plus difficile pour moi. La période, par exemple, autour de Noël, généralement, c'est une période qui est compliquée. Et du coup, je sais déjà que ça va pas aller. Et je sais déjà plus ou moins pourquoi. Et bah, du coup, j'avais listé, par exemple, quoi faire dans ces situations. Qu'est-ce qu'on peut me proposer? Par exemple, ça peut être des trucs tout bêtes, mais c'est me proposer des musiques que les gens, ils aiment bien pour que ça m'occupe et que bah, je puisse entendre des sons et me focaliser dessus et ramener à des sensations agréables. Ça peut être plein de choses. Et en fait, j'ai listé aussi des trucs qui marchaient à tous les coups. Dans le sens, c'est un peu des trucs qui vont me réconforter, quelle que soit la raison pour laquelle je vais pas bien. Typiquement, m'apporter un bubble tea, c'est un truc réconfortant pour moi. Et ça, bah, ça peut être un truc à faire si la personne elle a un doute sur le fait que je vais pas bien.
Moi, j'ai parfois des boissons préférées ou des gâteaux préférés, sauf qu'ils changent toutes les deux semaines, donc c'est impossible à suivre.
Oui, et bah du coup là dans le protocole, moi j'ai essayé d'identifier des choses qui sont valables sur la durée, mais c'est clair que c'est probablement pas figé parce que bah je suis une personne qui évolue.
Évidemment.
Et je me disait dès la rédaction du protocole qu'il faudrait probablement le faire évoluer et qu'il y a probablement des fois où le protocole marchera juste pas et qu'il faut aussi que les personnes en face s'y attendent. Mais
il n'y a pas de garantie de réussite. Tu mets toutes les petites lettres en bas du contrat et tu mets version du 2026-04-15.
C'est vrai qu'avoir des guides un petit peu pour si c'est des moments difficiles, c'est intéressant d'avoir un guide qui nous permet de savoir quoi faire. Je sais qu'il y a un moment, Alexia, t'avais... t'étais même allé avant ça, avant même de savoir quoi faire, c'est à qui le faire. Et t'avais pour une amie pour qui ça allait régulièrement mal, tu avais fait un grand poster où t'avais dit bah voici tous les gens qui tiennent à toi avec leur numéro de téléphone. Et c'était un grand poster qu'elle avait et qu'elle pouvait utiliser pour appeler les gens quand, enfin appeler ou envoyer des messages, je ne sais plus, mais pour que quand ça va mal, voilà, savoir déjà vers qui te tourner, quoi faire, quoi. Et pas le cacher derrière une vitre que t'oserais pas briser, mais avoir un truc qui est accessible facilement, quoi. Avoir un script à suivre où t'as plus trop besoin de réfléchir.
Numéro 1, aller prendre une douche chaude.
Ouais, il y a carrément un autoscript aussi sur qu'est-ce que moi je peux faire pour m'aider avant de décider si je veux demander de l'aide. Et ça peut commencer par ça.
où tu peux demander à tes proches, demandez-moi si j'ai déjà pris une douche chaude, envoyez-moi à la douche.
Ouais.
Mais bon, ça c'est les cas difficiles où du coup, on se sent mal, on sait pas pourquoi, on sait pas comment, les trucs sont difficiles, potentiellement on sort même du cadre de crise que t'avais défini Alexia, parce que c'est des trucs qui peuvent être récurrents, qui peuvent être liés à des maladies, des dépressions, des choses comme ça. Mais même dans des cas plus simples où effectivement on a besoin de quelqu'un qui vient nous aider pour monter un meuble ou je ne sais quoi, il y a différents points donc on a déjà évoqué. Il y a le fait de si on a un réseau d'aide ou une culture d'aide, c'est beaucoup plus facile d'aller voir les gens. Si tu sais que c'est des gens qui déjà se demandent de l'aide les unes les autres, c'est plus facile d'aller chercher de l'aide. Donc ça peut être souvent, dans une relation de couple, il y a déjà un petit peu ça, mais si dans ses amis, on a ça aussi, c'est plus facile, ou sa famille, ou même ses collègues. Parfois, il y a des gens, leur relation de collègues, ils vont s'aider beaucoup, ça fonctionne aussi. Il y a ce que tu disais, Adèle, est assez important, la peur que l'autre personne ne sache pas dire non, ça peut rendre le truc assez difficile, surtout si on a peur de ça. Après, il y a des gens, ils disent, tant mieux, si cette personne ne sait pas dire non, elle va m'aider. Bon, c'est pas très sympathique, mais.
Et à l'inverse, faut aussi avoir en tête que effectivement la personne peut refuser et s'assurer que ça va pas nous mettre encore plus mal.
Oui.
C'est aussi un autre point de vigilance avant de faire une demande d'aide, de s'assurer que la personne elle pourrait ne pas être disponible ou ne pas vouloir et que ça doit être OK.
Ouais.
Ça d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle certaines personnes vont avoir du mal à demander de l'aide parce que elles projettent que si jamais il y a un non, ça sera beaucoup trop difficile à entendre.
Ouais, la peur du refus, quoi.
Ouais, la peur du refus, parce que voilà, si on se sent mal et on se dit bon bah voilà, je me sens très mal, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin de présence. Est-ce que tu veux bien être présent avec moi? Non. Alors là, c'est double punition.
Ouais.
Mais donc du coup, il y a des techniques à utiliser si jamais on veut s'assurer que la personne en face puisse dire non, qui vont être le fait. Moi, c'est vrai que si je demande de l'aide, souvent j'essaye de dire dans le même message, de lister un petit peu que j'ai un plan B ou un truc comme ça. C'est est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Sinon, je me débrouillerai de telle manière ou juste je me débrouillerai sans forcément dire, etc. Mais en tout cas, présenter une alternative et pas faire croire à l'autre qu'en fait son aide est indispensable. Alors parfois son aide va peut-être être indispensable dans ce cas-là. Bon. Mais sinon, j'essaye de le dire.
J'imagine trop, genre donner une option B mais qui soit complètement misérable, tu vois. Est-ce que tu peux faire genre ce petit truc? Sinon, c'est pas grave, je mangerai pas durant 3 semaines. Oh non.
Est-ce que tu peux m'emmener aux urgences? Sinon, c'est pas grave, je ramperai, j'irai en rampant.
Oh non.
Mais ouais. Du coup, verbaliser le fait que la personne peut dire non, ça va aider beaucoup les gens. Et après, il y a encore la technique encore au-dessus, en quelque sorte, éventuellement. Mais bon, pour de l'aide, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est de dire, j'aurais besoin que des gens viennent m'aider, à repeindre mon plafond. Voilà, je t'en parle maintenant. Si jamais, réfléchis-y. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, reviens vers moi. Enfin, si jamais c'est quelque chose que tu veux bien faire volontiers, reviens vers moi. Et du coup, tu laisses l'espace et tu laisses le truc que par défaut, la personne est à faire un effort de son côté pour revenir vers toi. Ça marche pas chez tout le monde. Il y a des gens qui vont se dire, oh là, c'est une technique de manipulation, tout ça, et qui vont se sentir mal. Le fait que ce soit inhabituel fait qu'il y a des gens, ça va les déranger. Donc ça marche pas forcément. Attention à ça, quoi.
À côté de ça, moi, je vois aussi que ce qui a pu me freiner à demander de l'aide dans le passé, c'était justement cette question de à quel point la demande, elle est importante de mon côté. Je suis tombée sur une fiche l'autre jour où il y avait un listing avec des points sur décider de l'intensité de sa demande, ça s'appelait. Et en fait, par exemple, il y avait est-ce que la personne en face, elle a les capacités de répondre à la demande? Est-ce que la personne est disponible ou est-ce que c'est le bon moment pour demander? Est-ce que je suis au clair avec ma demande? Est-ce que il y a un objectif long terme sur cette demande, etc. Et donc, il y avait tout un tas de questions auxquelles répondre par oui ou par non. Et tu comptais le nombre de oui et ça te faisait un nombre de points. Et en fonction du nombre de points, c'était genre à quel point t'es légitime, en fait, à faire cette demande. Et je me suis dit, si je l'avais eu plutôt entre les mains, cette fiche, probablement que ça m'aurait aidé à faire des demandes quand j'ai un doute sur est-ce que ma demande, elle est acceptable? Est-ce que c'est normal de demander de l'aide par rapport à ça? Parce que dans le passé, je pense que je savais pas trop ce qui était OK de demander ou pas, quoi. Et c'est un peu bête d'avoir besoin d'une fiche, mais ça m'aurait aidé.
Mais après, ça peut être un petit peu dangereux aussi parce que moi, quand j'entends parler de légitimité, c'est toujours un truc qui me fait peur. parce que en fait, si on a des besoins, on est légitime à ce que ces besoins puissent être répondus dans tous les cas. Et donc, en fait, même si je vais voir quelqu'un que j'ai croisé trois fois et que je lui dis « Ah, est-ce que tu pourrais m'aider à faire ce déménagement horrible que j'ai à faire ce week-end ?» alors que j'ai déjà plusieurs personnes qui viennent m'aider, je suis légitime à le faire. Après, il faut que cette personne puisse se dire non, clairement non, parce que oui, c'est pas à elle de venir m'aider particulièrement là-dessus, mais en fait, on peut demander de l'aide sans raison. Enfin, on est toujours légitime à pouvoir demander des trucs, quoi. Et, du moment que la personne en face, elle est capable de dire non.
Et d'ailleurs, je pense que moi, ce qui m'a aidé aussi dans le fait d'être capable de demander de l'aide, c'est le point qu'on a un peu évoqué déjà tout à l'heure, mais qui est que ça rapproche, en fait, parfois, de se rendre vulnérable, de montrer qu'on demande de l'aide, de s'ouvrir aux autres, et on peut voir aussi sur qui on peut compter dans son entourage, et ça permet aussi à l'autre de s'autoriser à faire des demandes. Et moi, j'essaye de dire ça quand j'ai un doute sur est-ce que c'est pertinent de demander de l'aide, pour m'inciter un peu à le faire, parce que avant c'était difficile pour moi de demander de l'aide, j'avais beaucoup trop de freins à demander de l'aide, et du coup je mets ça dans la balance pour m'encourager en fait à demander de l'aide maintenant.
Ouais, il y a vraiment de bonnes raisons pour demander de l'aide. Il y a vraiment ce truc où ça fait du lien en fait, comme tu disais Sacha, ça renforce une culture de la solidarité en fait, de l'entraide. Moi, je vois une autre bonne raison de demander de l'aide, c'est qu'il y a ce truc de il est possible d'être dans une attitude, il y a des gens, ça arrive même au meilleur, d'être dans une attitude où tu t'attends à ce que l'autre sache ce dont t'as besoin. Et c'est pas bien, en fait. C'est bien d'être capable d'expliciter, c'est toi qui sais ce dont tu as besoin, a priori. Donc ouais, demander de l'aide pour pas partir du principe que l'autre est censé deviner ce qu'il ou elle doit faire en face de toi. Pour que ta vie soit OK, quoi.
Oui, cette attitude est terrible parce que personne n'est capable de lire dans les pensées des autres.
Ouais, même quand on est très amoureux, s'il vous plaît.
Ouais, c'est ça.
Notez bien.
Dans les couples, il y a souvent une culture de l'autre devrait savoir ce que je pense ou ce dont j'ai besoin, et ça, c'est assez grave parce qu'en fait, non.
Ouais.
C'était d'ailleurs trop mignon quand on a échangé nos protocoles d'urgence, il y avait un couple et ils ont découvert des choses en mode « Ah ouais, je peux faire ça pour t'aider !» Ah bah, trop bien, Jonathan.
C'est ouf, ouais.
C'était trop mignon.
C'est sans doute le message le plus important de cet épisode.
Il me semble qu'il y a une recherche qui dit que plus tu vis longtemps avec quelqu'un, et plus
moins tu sais de quoi la personne a besoin.
Moins tu sais, moins tu la connais. Mais... Et plus tu penses la connaître, mais en fait, moins tu le sais réellement, quoi.
Je suis assez certaine qu'on n'a pas fait le tour du sujet et je vais me coucher ce soir et avoir de nouvelles questions qui vont arriver dans ma tête. Mais c'est l'heure de clôturer cet épisode. Je suis vraiment contente d'avoir pu vous poser mes questions, Sacha et Adèle. Et c'est fou de voir comment à seulement trois personnes, on a déjà eu un peu une diversité de vécu, quoi. Et maintenant, à celles et ceux qui nous écoutent, j'aimerais vous encourager à vous poser la question sur ce qui se joue pour vous. Est-ce que vous aimez aider ? Est-ce que vous acceptez l'aide des autres ? Est-ce que vous voudriez le savoir si votre ami a besoin d'aide ? On mettra des questions dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez les poser à vous-même ou à d'autres. Adèle et Sacha, est-ce que vous avez un petit mot pour la fin ?
Moi, je vous invite à prendre un temps, quand vous allez bien, pour réfléchir à ce qui vous aide quand vous n'allez pas bien. Ça vous permettra de mieux prendre soin de vous, vous-même, la prochaine fois que ça n'ira pas, ou d'avoir un socle pour mieux demander de l'aide à votre entourage.
Moi, je trouve que c'est intéressant de réfléchir au-delà de une action individuelle d'aide, mais de réfléchir au sein d'une relation, d'un réseau de relations, qu'est-ce que c'est l'idéal qu'on voudrait avoir en termes de quantité d'aide qui s'apporte les unes envers les autres.
Moi, je vais un peu insister sur ce que vient de dire Sacha. Je pense vraiment qu'aider et être aidé sont des choses qui font du lien et que cultiver du lien, c'est une bonne chose. Maintenant, peut-être que c'est difficile pour vous d'aider ou d'accepter de l'aide. Et si c'est le cas, ce n'est pas de votre faute et je vous invite à ne pas culpabiliser. L'important, c'est d'être honnête avec soi-même et les autres et faire de son mieux sans se maltraiter. Et juste pour finir l'épisode, je voudrais dire que ça va mieux qu'il y a un mois. Et je veux remercier toutes les personnes qui m'entourent, qui m'ont apporté de l'aide et qui continuent de m'en apporter. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est vraiment grâce à vous, par le bouche à oreille, que ce podcast gagne en visibilité. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail sur
contact@atesamours.fr ou nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vos charmants messages sont pour nous une grande source de motivation. Le script et les sources de cet épisode sont disponibles sur notre site atesamours.fr. À bientôt pour le prochain épisode.